C'est maintenant que se joue le sort des ressources marines européennes. Alors que les quotas de pêche de 2014 à 2020 sont en train de se décider à Bruxelles, le maire de Lorient, Norbert Métairie, a décidé de jouer lui-même le rôle de lobbyiste pour faire entendre sa position, qui diffère de celle de Greenpeace notamment. D'après lui, une pêche durable est possible, sans pour autant supprimer la pêche des grands fonds. Pascal Marcaggi est allé à sa rencontre.
Nous sommes allés au Parlement européen et nous avons rencontré également des membres de la Commission européenne sur les problématiques de la pêche, en compagnie de tous les acteurs portuaires, je dirais, tous les acteurs de la pêche à Lorient, qu'ils soient marailleurs, marins-pêcheurs, représentants des diverses familles. Donc c'est l'occasion d'échanger avec nos interlocuteurs à Bruxelles, évidemment sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément en accord. Il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels nous sommes là en position de pouvoir argumenter pour un meilleur sort pour la pêche, notamment en Bretagne et plus singulièrement à Lorient.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté les eurodéputés que vous avez déjà reçus qui sont venus à Lorient le 22 février dernier et la Commission qui semble tout de même un peu sourde?
Oh, ils ne sont pas sur les mêmes positions, ce qui est tout à fait normal. La Commission prépare un certain nombre de décisions d'orientation qui préparent la future politique des pêches, donc qui va être discutée cette année et en 2013, qui sera mise en œuvre sans doute courant de l'année 2013. Et le Parlement européen, maintenant, du fait de la codécision, qui lui est chargé aussi de faire des amendements sur ces propositions, sachant que derrière, il y a aussi le Conseil des ministres, donc c'est un jeu à trois en quelque sorte, sur lequel il faut trouver des alliances, trouver des compromis. Et nous, au milieu de tout ça, nous essayons évidemment d'avancer les arguments qui sont les nôtres concernant l'avenir de la ressource, concernant l'avenir des pêcheries, le rôle, je dirais, des places portuaires, le renouvellement de la flotte, par exemple, la problématique des rejets, tout un tas de questions sur lesquelles, évidemment, nous avons à faire valoir les intérêts du port de Lorient.
Quel est votre sentiment sur la façon dont vous avez été reçu, justement, par la Commission ?
Le dialogue est direct, franc, courtois, mais ferme. De part et d'autre, évidemment, on est forcément en désaccord sur une certaine conception qu'a la Commission d'être un petit peu trop attentive à des formations environnementalistes et ne prenant pas suffisamment en compte les problèmes sociaux, les problèmes humains et les enjeux économiques que constitue la pêche. Et bien sûr, au milieu de tout ça, on essaie, nous, d'avancer l'idée qu'on peut pratiquer une pêche durable, responsable, vertueuse, dans beaucoup de domaines, de plans d'action, plein d'innovations, avec de la sélectivité, par exemple, avec une protection de la ressource, tout en faisant vivre, je dirais, correctement des familles. L'emploi concernant la pêche à Lorient, le port de pêche, c'est 3000 emplois directs. Donc ce n'est pas rien, ça pèse dans l'économie locale, mais ce qui est vrai pour Lorient est vrai aussi pour l'ensemble des ports bretons et voire des ports français.
Lorient, justement, il y a une entreprise qui est importante, c'est la Scapêche, bien sûr. Que pourrait, par exemple, représenter pour elle ou risquer pour elle la réforme de la pêche et pour ses emplois directs en marais dont vous parlez?
Pour ce qui est de la Scapêche, évidemment, c'est la pêche des grands fonds qui est concernée. Il est vrai que si cette pêche était fermée, cela poserait des problèmes qui obligeraient la Scapêche à se repositionner sur d'autres pêcheries, entrant par là même en concurrence avec d'autres entreprises de pêche qui sont sur ces pêcheries déjà là. Ça ne serait pas forcément une bonne chose dans la mesure où la pêche des grands fonds est une des pêches les mieux surveillées, on peut dire, les plus surveillées, et que par ailleurs la Scapêche, avec notre aide d'ailleurs, organise un suivi très très précis, 33 000 traits de chalut qui sont analysés actuellement pour voir quel est l'impact précisément dans le cadre des quotas disponibles qu'utilise la Scapêche pour montrer que ces espèces ne sont pas menacées et que l'écosystème lui-même n'est pas menacé. Et c'est à partir de cette expertise, l'expertise de ceux qui pratiquent la pêche, avec l'aide d'Ifremer notamment, on essaie de faire valoir sur le plan statistique ces mesures en observant tout simplement qu'à Bruxelles, on ne fait pas ces mesures-là. Qu'on prend des mesures selon le principe de précaution, mais que ça ne s'appuie pas forcément sur une analyse précise, je dirais, des impacts concernant les différentes espèces.
Qu'est-ce qu'on appelle justement les grands fonds et est-ce que derrière cette pêche hauturière ne se cache pas tout simplement la question du chalutage en fait?
On a cette analyse effectivement que derrière précisément la pêche des grands fonds, qui est une pêche assez spécifique, qui se fait à des profondeurs qui sont au-delà de 2000 mètres, avec un chalut qui finalement passe toujours à peu près au même endroit. Ça veut dire que c'est très peu de surface qui est utilisée. On voit bien que derrière, c'est aussi la remise en cause éventuellement du chalut, mais là, qui concernerait pas simplement la pêche des grands fonds, mais je dirais toute la pêche aujourd'hui, alors que il y a un travail qui se fait actuellement, toujours avec Ifremer, sur la sélectivité pour fabriquer des chaluts qui soient beaucoup plus protecteurs pour la ressource, avec un impact moins important, mais aussi qui permettent de consommer moins de carburant pour les bateaux. Et je dirais, avec l'augmentation du prix du gasoil, c'est un fait important. Ça veut dire qu'on est toujours dans un dispositif de créativité, de recherche, de développement, d'innovation, de façon à faire en sorte que la pêche, d'une manière générale, qui est une entreprise de cueillette à ce niveau-là, après la transformation, c'est une véritable entreprise de production, que la pêche, finalement, soit le plus respectueuse possible de la ressource. Et quand on fait de la sélectivité, on travaille aussi sur les rejets, c'est-à-dire diminuer au maximum les rejets en mer sur des poissons qui n'ont pas la taille, par exemple, ou sur des espèces qui ne sont pas pêchées.
La pêche au large ne représenterait donc pas de danger pour les stocks de poissons, à en croire le maire de Lorient. Nous avons demandé à François Chartier, responsable de la campagne Océan au sein de Greenpeace France, ce qu'il en pensait.
Alors, sur la pêche profonde, donc la pêche en dessous de 400 mètres, on est en désaccord totalement avec cette analyse. Ce que disent les scientifiques européens, en l'occurrence le CIEM, un organisme indépendant, c'est que 100% des espèces ciblées par les pêches profondes, et en particulier par la scapêche, sont au-delà des limites de sécurité biologique, c'est-à-dire très clairement surexploitées. Et on voit que ces espèces qui ont commencé à être pêchées dans les années 80, leur population a décru de manière extrêmement significative et inquiétante, ce qui fait qu'on a, par exemple, l'empereur qui n'est plus autorisé à la pêche. Donc non, ce sont des espèces très menacées et des pratiques de pêche qui détruisent les écosystèmes environnement, les habitats des grands fonds.
Mais on a entendu M. Métairy citer l'Ifremer pour dire qu'ils avaient mené des études et qu'ils seraient d'accord sur le fait que l'écosystème n'est pas en danger.
Ça fait quelques années qu'on entend parler de ces 33 000 traits de chalut. Personne n'a jamais vu les résultats de ces études. Ce qui est sûr, c'est que il y a une forte mobilisation de la communauté scientifique internationale, hein, puisque la question des pêches profondes ne concerne pas que l'Orient. Elle se discute, par exemple, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et globalement, la communauté scientifique est très inquiète de cette pratique. C'est très peu de navires et c'est très peu de volume, mais c'est une destruction d'un environnement très fragile. Donc non, malheureusement, il y a une vraie inquiétude autour de ces pratiques-là. Un petit peu d'extrapolation, de la même manière que quand il dit que tous les acteurs étaient représentés lorsqu'il s'est rendu à Lorient, tous les acteurs de la pêche industrielle lorientaise, c'est-à-dire la scapêche, hein, la pêche artisanale, ne fait pas du tout partie des préoccupations dans cette discussion-là. Concernant les pêcheries profondes, il y a deux problèmes. Il y a la pratique du chalut en passant sur le sol va avoir des conséquences extrêmement destructrices sur les habitats environnementaux. Effectivement, si on est passé déjà depuis des années sur le même endroit, il y a clairement plus rien, c'est un champ de ruines. Le chalut, c'est un problème de non-sélectivité, puisque par définition, il capture tout ce qui passe en quelque sorte. Et puis, il y a une spécificité des écosystèmes profonds, donc du chalutage sur le fond, hein, sur le sol, mais en grande profondeur, c'est qu'on cible des espèces avec une biologie extrêmement fragile. En fait, plus on est dans les grandes profondeurs, plus la reproduction des espèces est tardive, plus la croissance et la maturité est lente, et on a des espèces qui se reproduisent après plusieurs dizaines d'années. Et donc, si vous passez systématiquement au même endroit à cibler ce qu'on appelle les agrégations, c'est-à-dire les poissons qui sont en période de reproduction, qui se concentrent, eh ben, on va avoir une augmentation de l'impact. Effectivement, concernant les espèces profondes, on voit bien, et d'ailleurs, la scapêche le fait elle-même dans l'océan Indien, et on a du mal à comprendre pourquoi ils n'appliquent pas cette logique. Déjà, de passer des techniques plus douces, hein, comme la palandre, ou le casier, limiterait la destruction sur l'environnement. Après, certaines espèces profondes ne peuvent pas être pêchées de manière industrielle. Il n'y a pas de solution durable à ce niveau-là.
Qu'est-ce que vous lui répondez lorsqu'il dit que les environnementalistes ne prennent pas en compte la réalité humaine de la pêche, sous-entendu les emplois, évidemment le secteur économique?
Nous, ce qu'on met en avant, c'est la nécessité d'une gestion durable de la ressource pour la pérennité de la pêche. Et effectivement, ce qui nous semble la solution pour arriver à ça, c'est d'intégrer des critères sociaux, des critères environnementaux pour justement non seulement obtenir une restauration des stocks, donc sauvegarder l'environnement, mais donner un avenir à cette pêche. Et ce qu'on voit très bien, c'est que si on compare la pêche industrielle à la pêche artisanale, avec la pêche industrielle, vous avez beaucoup moins d'emplois qui sont créés par rapport au tonnage débarqué. C'est une augmentation de la productivité. Plus on augmente la productivité, moins il y a d'emplois, et plus on sort de poissons, et plus on met à mal les stocks. À l'inverse, une pêche plus artisanale, elle, va être beaucoup plus créatrice d'emplois par rapport au nombre de poissons débarqués. Et cette logique-là, elle a aussi un avantage économique, c'est-à-dire que le poisson peut être beaucoup plus valorisé, on est sur des circuits courts plus facilement, et donc on vend le poisson plus cher. À l'inverse, la pêche industrielle, c'est plus vous pêchez, plus vous avez besoin de pêcher parce que vous faites tomber les prix, et la pêche artisanale, c'est à la limite moins on pêche, plus on peut valoriser le produit. C'est l'exemple du bardeline, par exemple, pour prendre un exemple en Bretagne.
Pêcheurs industriels, ONG, Commission européenne, et vous, dans tout ça, me direz-vous, que faire pour préserver la biodiversité marine? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Devenez consommateur en laissant de côté les espèces menacées, privilégiez les techniques artisanales et locales, et surtout respectez les saisons de pêche. Greenpeace a édité un kit de consommation responsable. Nous vous avons laissé le lien sur le www.radioéthique.com.